Messieurs, à présent, nous allons parler épices et épices vraiment à découvrir ici tout au long de ce week-end sur le stand ici installé à l'espace Cara. Qui veut intervenir? Seb, Nico, Nathanel?
Alors, bah vas-y, on alors je vais présenter effectivement notre nouvelle invitée, donc c'est Iliana Diaz des épices Ikori. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, vous avez avec vous plusieurs échantillons d'épices dont vous nous avez déjà fait découvrir quelques petits échantillons, notamment du piment fumé et de la vanille du Mexique.
Tout à fait, la vanille du Mexique, c'est très spécial pour nous parce que c'est le Mexique, c'est le berceau de la vanille. Avant 1600, la vanille poussait seulement au Mexique et la vanille était pollinisée par une abeille.
Une abeille, voilà, bien particulière. Et du coup, on croit à tort que la vanille vient, par exemple, de Madagascar ou d'ailleurs. Et non, effectivement, voilà, la vanille est originaire du Mexique. Et vous en avez un échantillon qui sent très très bon. Donc, des épices, Ikori, vous avez une large gamme d'épices. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les différents produits que vous avez?
Et en effet, ce n'est pas si large parce que nous, on travaille en circuit court. Ça veut dire qu'on va sélectionner les épices dans les pays d'origine. On travaille avec des producteurs ou des coopératives et on fait l'importation nous-mêmes. Donc avec ce modèle, en effet, c'est compliqué d'avoir commencé avec 200 épices. On ne travaille pas dans les circuits des grossistes. Donc on a une petite sélection, mais des produits bien choisis.
D'accord. Alors Iliana, je vous arrête parce qu'en fait j'ai suivi un petit peu votre parcours pour mieux comprendre. Vous et votre mari Brice, en fait, vous êtes un couple franco-mexicain. Vous avez été passionné de voyage.
Tout à
C'était
fait.
Pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Et puis vous êtes passionné d'épices et de diversité naturelle et culturelle aussi.
Et culturelle surtout.
Et puis vos parcours professionnels à l'international vous ont permis de parcourir le monde entier, c'est ça?
Tout à fait. Il y a quelques années, on travaillait dans l'industrie très exigeante de l'automobile et on souhaitait prendre du temps pour nous. C'est réaliser l'esprit et on est parti faire un tour du monde de 8 mois. Et c'est suite à ce voyage, on a fait des rencontres magnifiques dans des pays asiatiques, dans la Polynésie.
Ça a été un véritable break professionnel.
Tout à fait.
C'était en 2019.
En 2019. Et derrière, il y avait aussi la quête de trouver un projet qui fait du sens pour nous.
D'accord.
Donc, on est parti et on a rencontré des producteurs et des épices. Et ça, c'était un vrai déclic. Et au retour de notre grand voyage, on a analysé le business des épices. En effet, on a décidé de démarrer notre activité d'épices.
Alors, Ikori, pourquoi Ikori? Pourquoi le nom Ikori?
Ikori, et comme vous savez, on a plusieurs types de piments.
Oui.
On souhaite devenir les spécialistes de piments et on a déjà une belle collection. Et Ikori, ça veut dire piment dans une langue indigène mexicaine.
D'accord.
Et justement, effectivement, on voit, comme vous l'avez dit, votre soin particulier apporté au fait d'importer voilà, les produits de leur lieu d'origine. Le piment d'Espelette vient d'Espelette, évidemment. Le thym sauvage vient du Languedoc. Vous avez également du paprika fumé qui vient d'Espagne. Vous êtes vraiment allé chercher les produits là où ils sont pour garantir une authenticité. C'était vraiment l'idée de départ. Vous vouliez vraiment de l'authentique.
Tout à fait. Pour nous, et une épice, c'est pas seulement les saveurs. Une épice, c'est fait du terroir qu'elle a produit. C'est fait de savoir-faire des producteurs. Et il y a aussi une partie culturelle autour de l'épice. Mm-hmm. Par exemple, si les piments d'Espelette, vous les cultivez ici, à côté d'Angoulême, peut-être il aura un bon goût. Jamais les mêmes goûts que dans le Pays Basque, parce que les conditions météorologiques et des terroirs sont différents. Et il n'aura plus la culture autour du piment.
C'est-à-dire que chaque épice que vous avez face à vous, dans chaque petit pot, au-delà des odeurs, des saveurs, il y a cet aspect qui culturel,
environnemental,
du terroir.
Culturel,
du terroir. Alors faites-nous justement partager au hasard, par exemple, un épice. Vous pouvez nous en parler? Prenez-en. Alors allez-y.
Exemple,
alors c'est vrai qu'au travers des ondes, c'est difficile de faire sentir aux auditeurs. Mais alors, est-ce qu'on peut... John, tu peux intervenir si tu veux.
Non, mais là, elle nous a sorti un petit piment fumé. Alors, le fumé, on le sent. Et quand vous le goûtez, attention quand même, ça pique, hein. Mais vous avez des saveurs qui ressortent, qui sont... Moi, le piment fumé, je ne connaissais pas. Je connais bien les piments, je ne connaissais pas le piment fumé. Et ça rajoute un côté qui est très très intéressant en cuisine. Enfin, moi j'aime bien le fumé avec le fruit du piment mélangé. C'est très original. Et moi, ça, je connaissais pas. Je savais pas que ça existait. Et j'étais heureux de l'apprendre.
Et aussi, ce piment, c'est très cher à moi, personnellement. Parce qu'il est produit par une petite communauté de peuples indigènes au sud du Mexique.
Ah oui.
Et ce piment est fumé en bois d'hêtre pendant une semaine. Et vraiment, la culture de ce peuple est basée sur ce piment.
C'est le peuple indigène de l'état de Chihuahua, c'est ça?
Non, c'est autre chose.
D'accord.
C'est encore plus grand.
Ok.
Au Mexique, on a environ, je dirais, 80-90 peuples indigènes.
Peuples indigènes, ah oui, effectivement. Bon. Ok. Alors, prenez un au hasard, et puis si vous pouvez nous le faire partager, qu'est-ce que vous avez dans le panel face à vous?
La vanille, par exemple.
La vanille, oui.
Alors. La vanille, en effet, le berceau de la vanille, c'est le Mexique, comme j'avais indiqué. Et c'est dans l'état de Veracruz que tout s'est originé.
Ouais.
La vanille était pollinisée avant 1600 seulement par une abeille qui produit un miel très acide et qui ne pique pas. Et donc, quand les Français, le roi Louis XV a souhaité avoir le monopole de la vanille, donc il envoyait des gens pour prendre des pieds de vanille au Mexique et l'amener à La Réunion. Et de La Réunion, ils ont trouvé la façon de la polliniser à la main. C'était fait par un esclave. Et après ça, la vanille s'est répandue partout dans le monde. Et chaque vanille, tous les vanilles sont bonnes, mais ils vont avoir des profils très différents. Et nous, on a deux types de vanille. C'est la vanille Veracruz, il a un profil fruité très agréable. Vous pourrez le sentir.
Oui, hein. On va le sentir. Vas-y, John. Alors. Vas-y, John, ton sentiment.
Ah oui.
Ah, vas-y.
Non, ça sent véritablement très très fort la vanille. C'est
impressionnant.
Quand vous achetez de la vanille en supermarché, par exemple, vous l'ouvrez, ben vous n'avez pas l'odeur qui vous sort au nez. Faut vraiment. Alors que là, j'étais à 10 cm, je l'ai senti, quoi. Même à 15 cm.
Hein. Et on a aussi, d'habitude, une vanille de la montagne. Celle-ci, ça pousse au niveau de la mer. Et il y a autre vanille qui pousse dans la montagne. C'est à, je pense, à une centaine de kilomètres de la même région. Par contre, le profil, c'est différent parce que la vanille de la montagne, il est exposé au changement de température entre les jours et les nuits différents qui vont faire que le profil, même si c'est la même variété de vanille, il va avoir un profil plus caramel. Donc, comme ça, on constate que le terroir a beaucoup de choses à voir avec les...
D'où l'intérêt, effectivement, tout c'est démontré. Ouais. Vous avez aussi effectivement des épices. Alors, il y en a pour tous les goûts. Il y a du plutôt salé, plutôt sucré, on l'a vu. Vous avez par exemple des c'est des fèves de cacao.
Tout à fait.
Ou du thym, c'est comme vous voulez, en fait, vous avez tout.
Alors ça, c'est...
Les grouets de cacao.
Parle bien dans le micro, Yana.
Les grouets de cacao, c'est la fève de cacao torréfiée concassée. Celle-ci, c'est origine Mexique. C'est une fève de bonne qualité.
Oui.
Que même si vous pourriez la sentir, il a un profil floral. Et c'est très agréable à manger, si vous aimez le chocolat noir.
Mmh, oui.
Et cette fève est produite aussi dans la région cacaotière du Mexique, qui était à l'origine de la domestication de cacao.
Oui, c'est vraiment fort hein, en odeur. Hein.
Et vous pourrez la goûter.
Hein. Pour la goûter, oui, d'accord, très bien. Ouais, j'en prends.
C'est qu'on sent vraiment la différence avec le produit grand public, quoi. Là, on sent que c'est vraiment quelque chose de fin qu'on peut.
Mais il faut savoir que le cacao, en Amérique centrale et Amérique du Sud, parce que. Il y en a au Mexique, ça prend toute une bonne partie de l'Amérique du Sud, il y en avait au Pérou aussi.
Tout à fait,
et c'était chez les tribus précolombiennes, ça faisait partie des rituels, des croyances. Et ils faisaient des boissons qui étaient rituelles, à base de cacao.
Oui.
D'ailleurs, le nom vient de là. Cacao, c'est comme ça qu'ils appelaient leur rite. Et quand ils sont arrivés, les Européens là-bas, au début, ils n'ont pas compris ce que c'était. Et quand on leur en a donné, Christophe Colomb, par exemple, a jeté par-dessus bord tout le cacao, la première cargaison qu'on lui a donnée. Il faut le savoir.
Mon Dieu. Alors je vois, en même temps que John parle, il y en a qui déversent d'autres épices dans un petit récipient pour faire le tour de table. Alors, parlez-nous-en, c'est...
En effet, celle-ci, c'est la gosse de la fève de cacao. Ça veut dire que c'est l'enveloppe.
C'est l'enveloppe.
Tout à fait.
Comme le son du blé, en fait.
Au moment de la torréfaction, la gosse va tomber, mais elle garde les parfums
de cacao. Les parfums, les odeurs.
Tout à fait. Ça ne se mange pas comme ça.
Mais comment on utilise ces cosses justement?
Au Mexique, on a l'habitude de faire une boisson pour les temps d'hiver et on va la griller et on va la mélanger avec des cacao et des maïs. Et on fait une espèce de chocolat chaud bien, bien épais pour les temps d'hiver. Ici, on la propose plus en infusion. Et c'est très intéressant parce que au contact avec de l'eau, ça va dégager les parfums de chocolat.
On peut substituer ce produit à du thé?
Tout à fait. Ça se boit.
Plongé dans l'eau bouillante?
Tout à fait.
En infusion?
En infusion. Ah.
Et oui. Tu peux t'en servir aussi pour aromatiser en version fumée des viandes.
Tout à fait.
C'est excellent.
Ouais. J'ignorais.
Et d'ailleurs, le mélange cacao et piment, et ici on n'y pense pas forcément, mais il me semble qu'au Mexique, c'est plutôt typique, oui. Plutôt une grande tradition. Oui.
Et puis ça va très très bien ensemble.
Surtout, cette piment fumée, c'est excellent avec le cacao. On travaille avec une chef de Lyon.
À Lyon, oui.
Elle a fait des glaces au piment fumé. Et on peut faire aussi des. Il y a un autre chef qui a fait un chocolat chaud, bien épais. Et avec des flocons de notre cacao fumé.
Moi j'ai une petite question sur la production de ces. Parce que vous l'avez dit, voilà, vous allez chercher vraiment dans les terroirs. C'est souvent des. Enfin, originellement des savoir-faire paysans, des savoir-faire assez modestes mais qui sont traditionnels. Forcément, on ne pourrait pas alimenter tout le grand public et toute la consommation de chocolat avec ce cacao parce que il y a des ressources. Du coup, est-ce que justement avec les phénomènes qu'on observe ces temps-ci, réchauffement climatique, bouleversement, etc., est-ce qu'il ne faudrait pas justement qu'on adopte le fait de consommer peut-être moins de produits de luxe mais de meilleure qualité?
Exactement.
Et d'aller les chercher plus moins dans la surproduction en fait.
Exactement, je pense que c'est une belle démarche. On a l'exemple de la viande et je suis d'accord avec vous. Et il faut éviter, parce que si la production intensive aussi exploite les personnes. Et nous, dans les piments, on travaille toujours avec des petits producteurs et on souhaite que la communauté productrice bénéficie avec les achats qu'on fait. Parce que pour eux, c'est très valorisant aussi et on va payer premium pour les épices.
Oui, très bien. Alors, j'en reviens sur votre site internet, Iliana, le site qui s'intitule Ikori. Partageur de saveurs, hein, je stipule. Il y a en fait plein de produits. Je vois votre e-boutique. Vous proposez des épices, des herbes aromatiques, du poivre, des piments, de la vanille, des mélanges d'épices, des coffrets d'épices et différents accessoires et aussi infusions. Alors on peut commander par le biais du site internet. Sinon, on peut venir directement au Gastronomade ici à l'île des Pagnacs. Alors, vous êtes quel stand?
Et on est dans les stands 92.
92, d'accord. Très bien. Sébastien.
Tout à fait, effectivement, le stand 92.
C'est notre géolocalisateur de la radio.
Et donc, au niveau des. Sur votre stand, justement, parce que bon, voilà, on l'a vu, sur votre boutique est quand même assez complète, on peut trouver beaucoup de choses, des coffrets, des mélanges, et des épices, vraiment des herbes à l'unité. Sur votre stand, qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit?
Et aujourd'hui, on a. Des épices mexicaines, donc ouais. Cacao, vanille, cause de cacao, beaucoup de types de piments. On a des épices indiennes, comme la cardamome, les poivres, le clou de girofle. On a des aromates français sauvages, cueillis à la main dans la garrigue de Languedoc.
Ils
sont très, très parfumés. Et je vais vous donner un petit peu.
Ah, ça c'est
un.
Alors, il y en a qui met...
Ça, il faut les frotter dans la main.
Les épices, voilà, on va sentir...
Et on peut trouver aussi des produits français comme les piments d'Espelette.
Alors ça, vous me dites, c'est...
C'est des thym sauvages cueillis en fleurs.
Du thym sauvage, d'accord.
C'est un thym qui s'appelle Tuyanol.
Effectivement, pas mal de petites choses. Ah, j'ai droit à mon échantillon aussi. Effectivement.
Je vois que sur votre site, vous mettez aussi des recettes pour les gens qui ne connaissent pas bien les épices, pour les aider à les utiliser. Ce qui est pas mal. Hein.
On a constaté quand on a démarré l'étude sur notre projet que les gens avaient peur des épices. D'abord parce qu'ils ne connaissent pas les épices, comment les utiliser.
C'est ça.
Et les gens pensent que les épices piquent. Ben non, il y a des épices très douces. Et aussi, il y a une question de dosage. Donc, les gens ne savent pas combien utiliser. Donc, nous, on est là pour les accompagner, pour les donner des recommandations et essayer de dire on sait les épices. Donc, ça ne pique pas tous. Et il y a pour tout le monde, pour les gens qui aiment les piments qui piquent et les gens qui aiment les épices plus douces.
Parce que justement, nous, enfin, cuisiniers de dans chaque foyer, il y a toujours un cuisinier, une cuisinière. Parce que justement, c'est pas ça, cette culture qu'on n'a pas. Les épices qu'on ne sait pas les utiliser. Alors, est-ce que c'est pas français, ça?
En effet, au Moyen-Âge, ici en France, oui. Les Français utilisaient beaucoup des épices.
Oui, mais aujourd'hui
Oui, tout à fait. C'est moi, mais je trouve qu'à travers des épices, on peut réduire la quantité de sel qu'on met dans la cuisine, même de sucre, avec la cannelle. Donc, je pense qu'il y a des petites choses qu'on peut incorporer dans notre alimentation et petit à petit, commencer à utiliser plus. Et après, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude, mais on peut commencer avec des choses très douces comme ce type d'épices, avec les cosques, c'est très subtil.
J'ai le sentiment qu'on n'ose pas en fait utiliser les épices.
Moi je sais pas parce que moi j'ose.
Toi tu oses?
Moi j'ose, je fais beaucoup, j'ai énormément d'épices. J'ai plus d'une trentaine d'épices différentes à la maison. Le truc, c'est le souci, comme elle l'a dit, c'est le dosage des épices. Parce que les épices peuvent être très bons. Prenez un bon curry par exemple, ça peut être très très bon, mais surdosé c'est immangeable.
Alors il y a ça et aussi les mélanges. Parce que est-ce que en mettant plusieurs épices dans un seul plat, on va pas contrarier les saveurs?
En effet, quand on fait des mélanges nous-mêmes, on pense à l'utilisation qu'on va avoir. Par exemple, on a un mélange d'épices qu'on a fait mexicaine, et c'est du sud de Mexique, de la région de Cancun, que tous les épices sont très, très amères. On ne pourrait pas les utiliser comme ça. Il faut l'utiliser avec du jus d'orange et du vinaigre pour balancer le goût. Donc toujours, nous, on pense comment les gens vont l'utiliser dans les plats.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est pour ça qu'ils ont mis des recettes avec ces épices-là, les montrer.
C'est ça.
Mais justement, toutes ces recettes, vous mettez au point des mélanges, effectivement, mais du coup, c'est quand vous voyagez, en fait, à chaque fois, vous faites le tour un petit peu de la gastronomie locale, c'est toujours une belle mission d'exploration, en fait.
Oui, tout à fait, et aussi, c'est mon parcours personnel, et moi, depuis très jeune, j'ai commencé à voyager, et ma meilleure amie est japonaise. Après, j'ai habité quelques années à Chicago, donc j'ai participé dans la communauté turque, donc j'ai appris beaucoup de la cuisine turque, de la cuisine thaï. Et après, c'est les rencontres qui ont fait qu'on acquiert cette habitude d'utiliser les épices, et surtout oser les épices. Même les épices qu'on ne connaît pas, on va les
Mais c'est encore mieux, quand on ne connaît pas, on va goûter.
Tout à fait.
Faut pas dire j'aime pas tant qu'on n'a pas goûté.
Exactement.
Vous dites dans un blog de votre site internet que souvent on est confronté à laisser les épices dans les placards. Donc forcément les goûts s'en vont. Et vous parlez de conservation des épices et comment on peut conserver longtemps?
Tout à fait. Et d'abord, il faut savoir que comme nous, on travaille en circuit court, les épices sont plus fraîches que celles que vous trouvez dans la grande distribution. Et après, une fois que vous avez acheté les épices, il faut bien les tenir à l'abri de l'humidité, surtout de l'humidité et de la lumière. Donc, dans un endroit bien sèche et les pots bien fermés. Donc, il y a des gens qui ont les épices à côté dans la cuisine où tout la vapeur d'eau sort avec la lumière. Ça, c'est le pire endroit pour mettre les épices. Il faut les avoir bien cachés dans un endroit fermé. Ou sinon dans des dépôts bien obscurs, tout à fait.
D'accord. Bon, mais ça
moi j'ai des pots noirs et hermétiques.
Oui. Moi j'ai des tubes à la lumière, ça va pas. On va pas tout changer.
Il existe des petits pots qui ressemblent à des petites boîtes de conserve qui sont très bien en métal pour conserver les épices.
On fait une petite conversion alors. Vous en vendez éventuellement sur votre site des contenants pour épices?
Aujourd'hui, on a décidé de commercialiser en verre parce que quand on a fait le tour des marchés, on a constaté que les gens aiment voir les épices. Au début, notre packaging principal qu'on avait pensé, c'était métallique, mais les gens aiment voir les épices. Donc, on a fait un compromis et la plupart des épices couvrent notre pot, comme ça.
D'accord, on voit dessous, par
contre. Tout à fait, et les verres, c'est le meilleur matériel. Pour l'alimentaire.
Pour l'alimentaire, oui. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Iliana. Stéphane, Iliana a fait une très belle intervention.
Totalement. Ça donne envie.
Sur les épices.
Et donc, on peut vous retrouver sur le stand 92.
Tout à fait. Et ce n'est pas seulement pour les consommateurs, pour les chefs. Hein. On travaille même avec des chefs étoilés.
Alors, justement, il y a des chefs là, qui sont présents ce week-end avec qui vous travaillez ou des chefs installés aussi dans la région?
Cette région, pas encore.
Et mais ça va venir.
On a rencontré Rémi Giraud.
Oui, absolument.
Donc, on va le rencontrer aujourd'hui aussi à 17h30.
D'accord.
Donc, on espère. et aussi trouver l'opportunité de trouver de nouveaux chefs ici dans mon...
Oui, c'est un carrefour de rencontres ici. Ouais.
Tout à fait.
Tout à fait.
Merci. John, rapidement, ton sentiment après avoir senti et avoir pu entendre ces différents descriptifs.
Déjà, on tombe sur des gens qui connaissent, qui sont passionnés. Et c'est vrai que les épices, bon, là, j'en ai goûté 3-4. C'est de la qualité, on le sent. Et vous trouvez des épices qui sont quand même pas évidentes à trouver, parce que du gruau de cacao, on dirait pas comme ça. Bon, tout le monde ne le cuisine pas avec, c'est pas faire. Mais allez sur internet, vous trouverez des recettes. Et là, ils en ont. C'est le moment.
Donc oui, on rappelle le site Ikori, Ikori-épices au pluriel.fr, et vous pouvez trouver donc voilà la boutique, des recettes et des conseils.
Et ici sur les gastronomades, quel numéro de stand?
92,
pas très loin de nous encore une fois, absolument. Bien, allez rencontrer Iliana tout au long de ce week-end.
Merci Iliana.
Merci à vous.
Merci à vous.
Passionnant.